Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Lors d'une échographie, on m'a dit, mademoiselle, vous avez une insuffisance ovarienne précoce. Aller voir un gynécologue pour pousser les résultats.
Il y a des femmes qui, parce qu'elles se sentent responsables, si ça ne marche pas, elles vont se sentir responsables et donc coupables. Et cette notion de culpabilité, elle n'a pas lieu d'être dans un parcours PMA.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, ils doivent vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Virginie ?
Alors, je viens pour partager mon parcours pour concevoir un bébé, sur ce que j'ai pu mettre en place pendant maintenant 1 an et demi, au fur et à mesure des essais, afin d'améliorer ma façon de vivre mon parcours et d'essayer d'améliorer également le résultat.
C'est-à-dire, du coup, qu'est-ce que vous avez fait pour être actrice de ce projet ?
Alors en fait, pendant les 6-9 premiers mois, j'ai pas été très actrice de mon projet. Je m'en suis remis vraiment totalement à la médecine. Je connaissais pas du tout ce milieu. J'ai appris ma pathologie un peu de façon brusque. J'ai dû me décider assez rapidement par rapport à ma pathologie. On m'a dit, voilà, si vous voulez un enfant, il faut se dépêcher. Le temps presse. Donc je m'en suis plutôt remis au départ à la médecine. La seule chose que je faisais, c'était du fertility yoga. Voilà, j'avais découvert ça pour plutôt l'aspect physique du corps, se détendre, aider un peu à supporter les stimulations, supporter les maux de ventre, etc. Alors pour ça, ça marchait vraiment vraiment bien. Ça joue aussi sur l'équilibre hormonal, mais c'est vrai que moi, c'était vraiment principalement pour me, pendant les stimulations, m'aider physiquement à les supporter. Mais en dehors de ça, vraiment, j'ai rien fait de spécial. Les médecins me disaient, pour vos stimulations, les essais, etc. Ils m'expliquaient les protocoles. C'était vraiment purement médical. Je me posais pas de questions. J'écoutais. J'aurais quand même, à l'époque, déjà, je me posais quelques questions. Est-ce que j'ai le droit de faire, par exemple, des colorations capillaires? Est-ce que j'ai le droit de manger ce que je veux? Boire de l'alcool? Et on m'a toujours dit, vie normale. Je pense que c'est quelque chose qui va me rester. Vie normale. Ce qui est important, c'est de continuer à vivre normalement pour pas se perturber, pour pas être complètement focus sur ce projet qui peut après créer des blocages, des choses comme ça. Et en fait, au bout de 6 mois de PMA, j'ai fait 3 essais bébés qui n'ont pas fonctionné. J'ai commencé à me poser des questions. Déjà parce que je voyais bien que mon corps commençait un peu à mal réagir aux stimulations et je me sentais pas très bien.
C'est-à-dire mal réagir, Virginie ?
C'est-à-dire que, par exemple, sur une des dernières stimulations que j'avais faites, j'avais des nausées, je dormais très mal la nuit, mais en même temps j'étais très fatiguée, physiquement, un peu comme si je je rejetais la stimulation. J'avais le ventre hyper gonflé. Enfin, j'avais mal au ventre, c'était tendu. Alors que les premières, bon, je sais pas si c'était parce que c'était nouveau ou quoi, mais en tout cas, j'étais plus dans la, je voulais absolument que ça fonctionne, donc j'écoutais pas mon corps, en fait, j'étais focus sur un résultat. Et donc voilà, au bout de 6 mois, je me suis dit, déjà d'une, je crois que j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de prendre du recul. C'est vrai que chaque mois aussi, alors j'ai pas fait des essais tous les mois, mais à chaque essai, c'est très compliqué psychologiquement quand on fait le test et qu'il est négatif. Il y a un deuil à faire finalement, sauf que le test il arrive à la fin du cycle et le cycle il redémarre pour le mois suivant. Donc on n'a pas le temps finalement si on veut continuer d'essayer. On n'a même pas 3 jours pour faire son deuil psychologiquement. Et je sentais que ça n'allait pas, en tout cas qu'il fallait que je mette en place quelque chose, que je fasse toujours confiance à la médecine sur l'aspect purement médical pour que ça monitore entre guillemets le cycle, mais il fallait que je fasse autre chose, il y avait autre chose quoi. Et donc au bout de 6 mois, j'ai commencé à faire des recherches par moi-même. Déjà sur l'aspect alimentation, je me suis dit c'est pas possible, je peux pas continuer. Alors j'avais pas une alimentation qui était, j'étais déjà un peu formée sur la bonne alimentation, mais il y a avoir une alimentation équilibrée et avoir une alimentation orientée fertilité, ça n'a rien à voir. J'ai découvert ça voilà au bout de 6 mois, donc en faisant des recherches un peu par hasard, je suis tombée sur des vidéos sur YouTube. Alors toujours cette question, est-ce que c'est sérieux ou pas? Bon, en tout cas, je suis de formation médicale et je me suis dit, en tout cas, ce qu'ils disent, c'est, je savais que c'était vrai. Enfin, c'est sourcé, il y a de la donnée scientifique, etc. Donc, déjà d'une, j'ai compris ma pathologie, parce que grâce à ces vidéos, ils expliquaient vraiment chaque type de pathologie qui peuvent entraîner une infertilité. Et puis, du coup, quelles sont les carences, quels sont les problèmes, les mécanismes qui fonctionnent pas, etc. Donc déjà, ça m'a permis de comprendre. Donc ça, c'est très important, chose que les médecins ne m'avaient vraiment pas expliquée. C'est telle pathologie, tel protocole. Donc déjà, ça c'était très intéressant pour moi et c'est comme ça que je suis devenue actrice. En fait, c'est déjà par la compréhension de ma pathologie et du coup de qu'est-ce qu'il fallait mettre en place déjà d'un point de vue purement physique pour pouvoir améliorer ça. Donc déjà, j'ai changé complètement mon régime alimentaire. J'ai adhéré en fait à c'est un programme de nutritionnistes qui sont vraiment spécialisés fertilité, qui travaillent avec des médecins dans les cliniques PMA, etc.
Du coup, Virginie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus quelle est votre pathologie?
Oui, alors donc c'est une insuffisance ovarienne précoce. Alors je sais pas si on peut vraiment qualifier ça de pathologie, mais en tout cas voilà, à 35 ans, j'avais arrêté ma pilule. Au bout de quelques mois, mes cycles étaient vraiment revenus de façon complètement anarchique et donc j'étais très inconfortable. J'ai consulté mon médecin qui m'a fait faire des analyses et lors d'une échographie, on m'a dit mademoiselle, vous avez une insuffisance ovarienne précoce. Allez voir un gynécologue pour pousser les résultats. Et donc là, on m'a fait un dosage hormonal et donc on m'a dosé donc l'AMH, qui est l'hormone indicateur de la réserve ovarienne. Et je me suis rendu compte qu'elle était très 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 basse, surtout pour quelqu'un de 35 ans. Enfin, j'avais les résultats d'une femme de 43 ans à 35 ans. Donc là, je m'y attendais pas du tout. En plus, j'étais pas du tout à ce moment-là. On sortait du Covid. J'étais célibataire. J'avais pas du tout. Je pensais pas bébé quoi. Donc grosse douche froide et donc plusieurs examens sont venus compléter ça, qui m'ont montré que j'avais pas d'autres types de, j'avais pas de, par exemple de pathologie fonctionnelle au niveau de l'utérus, des choses comme ça. Donc la PMA était possible et pas la stimulation pour la préservation qui commençait à être légalisée à ce moment-là. C'était trop tard pour moi. Parce qu'en fait, à chaque stimulation, j'ai trop peu d'ovocytes qui se développent, enfin de follicules qui se développent. Par contre, on a commencé à me parler du coup, si vous voulez être maman, il faut faire un bébé solo, quoi. Ou trouver un papa, mais bon, je me voyais pas non plus prendre le premier papa. Donc voilà, j'ai fait un travail un peu express sur moi, sur ce sujet. Je me suis questionnée, j'ai vraiment tout remis en question sur ma vision de comment j'allais fonder ma famille, etc. Mais voilà, j'ai réorganisé les idées. Je me suis dit que j'allais peut-être d'abord faire un bébé et ensuite fonder la famille, quoi. Et donc, du coup, j'ai mis en place une alimentation spécifique pour booster la fertilité et notamment dans le cadre de mon insuffisance ovarienne précoce. Parce que du coup, donc ce programme que je suis, c'est un programme qui prend vraiment en compte la personne à 100%. C'est pas des protocoles qu'on applique, tout le monde fait le même protocole. C'est vraiment en fonction de sa pathologie, de son vécu, etc.
C'est quelque chose que vous avez mis en place à partir des informations que vous avez réussi à trouver, ou est-ce que vous êtes fait accompagner par quelqu'un ?
Alors en fait, on est accompagné, donc ça s'appelle Fertiline, c'est un programme en ligne. Comment dire, on remplit en fait tout un questionnaire de plus de 250 questions. Ça part de notre enfance, est-ce qu'on a été allaité, comment on est né, est-ce qu'on a des pathologies, est-ce que notre famille a des pathologies, comment on se nourrit, quelle est notre hygiène de vie au quotidien. Enfin, vraiment, ça balaye à 360 degrés qui on est. Et en fonction de ça, c'est un programme en fait alimentaire, donc il nous explique quels changements on doit mettre en place. Et on a des rendez-vous avec des nutritionnistes. Alors, c'est nous qui choisissons le timing, la fréquence des rendez-vous, pour faire le point, pour discuter de l'avancement en fonction de comment on se sent par rapport à la mise en application du programme.
Est-ce que vous avez perçu des changements, des modifications dans votre corps, dans la manière dont vous vous sentiez par rapport à ce changement d'alimentation ?
Alors en fait, au départ, et ça on est bien prévenu, il y a des vidéos en fait qui nous expliquent bien le concept du changement, parce que on se parle pas de petits changements, hein, c'est quand même des gros changements à mettre en place. Clairement, les deux premiers mois, c'est quand même compliqué, parce que on supprime ce qu'on aime manger et on doit incorporer des choses qu'on n'avait pas du tout l'habitude de manger. Et on nous explique bien le concept un peu psychologique du changement, comment ça se passe. Au début, on se dit, ah chouette, c'est trop génial, je vais mettre en place un nouveau truc. Et puis rapidement, ah mais non, mais c'est trop dur, j'y arriverai pas, j'aime pas, je veux pas le faire, etc. Puis on se force un petit peu, et puis en fait, de toute façon, on a tellement envie que ça fonctionne, que moi, j'ai pas souffert de ce changement. Clairement, oui, j'ai senti une forte amélioration sur les sensations de faim, de fatigue au cours de la journée.
Avez un exemple de ce que vous avez changé pour qu'on puisse se représenter ?
Alors, par exemple, moi, le matin, je suis pas très petit-déjeuner. Je mangeais n'importe quoi au petit-déjeuner ou pas de petit-déjeuner. Donc, quand je dis n'importe quoi, c'était croissant, pain au chocolat, des choses qui me faisaient plaisir. Comme je suis pas très fan de petit-déjeuner, c'était soit un plaisir, soit rien. En fait, il est orienté déjà chrononutrition, c'est-à-dire que le matin, le but, c'est de booster tout ce qui est cortisol et dopamine pour lancer la journée, être dans la motivation, dans l'action, etc. Donc en fait, c'est pas de sucre avant 16h, entre guillemets. Donc le matin, c'est un petit déjeuner salé. Le midi, c'est légumes, protéines, mais du coup, on n'introduit pas vraiment de féculents, en tout cas, voilà. Et ça, c'est des choses, dans mes habitudes alimentaires. Moi, je vraiment le matin, ça a été très dur de manger des œufs, du fromage, des yaourts. Mais aujourd'hui, je peux plus m'en passer. C'est vraiment devenu une habitude et ça apporte de la satiété, ça donne un coup de fouet. Enfin, vraiment, c'est voilà. Donc c'est comme tout changement, c'est compliqué à mettre en place au début, mais j'en mesure les bénéfices.
Au-delà du changement de votre alimentation, qui est déjà un gros morceau, si on peut dire, est-ce que vous avez fait d'autres choses ou mis d'autres choses en place, et encore peut-être aujourd'hui ?
Oui. Alors, le deuxième action que j'ai mis en place, c'est de supprimer tous les perturbateurs endocriniens que j'avais chez moi, parce que je me rendais pas compte à quel point j'étais baignée au quotidien de ça. Donc ça concerne principalement la cuisine, tous les ustensiles de cuisine. Ça concerne également les produits qu'on utilisait pour faire le ménage, les cosmétiques, etc. Donc déjà, il y a eu un gros tri là-dessus. J'ai continué à mettre en place au fur et à mesure. Donc déjà, j'ai commencé une thérapie aussi. Alors au début, psychologue pour un peu parler de ce parcours, de à quel point je me sentais seule dans ce parcours, parce que vraiment côté médical, c'est quand même très compliqué. On est peu accompagné, on nous explique pas ce qui nous arrive. C'est très orienté résultat. Donc j'ai eu besoin de me faire accompagner sur ce point. Et puis j'ai eu besoin, en fait, je pense que ce parcours PMA, pour moi, il a été un peu déclencheur de, en fait, qui je suis. Au bout d'un moment, je me suis vraiment posé cette question. Un jour, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu veux faire un enfant pour toi, enfin pour être maman, ou parce que tu as besoin de guérir ton enfant intérieur? Et je suis restée très je comprenais pas ce qu'on voulait me dire, quoi. C'était je veux un enfant, je veux être maman, voilà. Et puis en fait aujourd'hui, après plusieurs mois et tout ce que j'ai pu mettre en place, je comprends mieux cette question. Donc du coup voilà, ça a commencé bêtement avec un psychologue, et puis j'ai eu envie d'aller plus loin. Donc quelqu'un m'a parlé du breathwork et notamment d'Amélie. Donc j'ai commencé un peu innocemment, je vais tester. En plus ça s'appelait Fertility Breathwork, donc pour moi c'était orienté, c'était une solution. Je baigne déjà un peu dans tout ce qui est bien-être, méditation depuis des années, donc j'avais jamais testé rien d'autre que de la méditation, mais je me suis dit ça ne peut m'apporter que du bien. Donc j'ai commencé comme ça les séances de breathwork. Très rapidement, dès la première séance, j'en ai mesuré les bienfaits. Je me rappellerai toujours cette première séance où je me voyais au moment de l'intégration. Donc en fait, ça se passe en deux parties. Il y a une partie où on respire et une partie où on est plus dans la relaxation. On intègre en fait ce qui s'est passé pendant la partie de respiration. Et donc pendant ce breathwork, à la fin, j'avais vraiment une sensation de physique, je me sentais hyper bien. Il y a eu la libération émotionnelle, j'ai beaucoup pleuré, mais c'était pas de la tristesse, c'était vraiment de nettoyage, voilà, une sensation de nettoyage. Et après je planais, je me rappelle, je me sentais dans l'océan avec mon surf, enfin c'était vraiment hyper bien à la fin de la séance, et c'est des sensations qui portent pendant 2-3 jours. Donc j'y suis retournée toutes les semaines quasiment depuis le mois de juin. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie aujourd'hui de ma routine hebdomadaire, le breathwork. J'ai testé aussi pas mal de, donc j'ai continué mon yoga de fertilité, j'ai continué le yoga tout court. Après je suis rentrée dans j'ai testé plein de choses parce que je voulais voir qu'est-ce qui pouvait me correspondre, qu'est-ce qui pouvait m'aider dans mon parcours. Donc sur le plan physique, j'ai vu un ostéopathe, j'ai fait des massages aussi orientés fertilité. Alors moi j'ai trouvé que ça me correspondait moins, mais voilà, après chacun. J'ai surtout trouvé un peu ma voie sur le plan énergétique, je dirais. C'est là où j'ai commencé un peu à tester des choses et à me rendre compte vraiment que ça m'apportait déjà sur mon quotidien, sur ma façon de gérer le parcours, les échecs, pendant les phases de stimulation, tout ce que je pouvais ressentir, comment gérer l'attente avant le résultat, etc. Donc j'ai fait des soins énergétiques assez classique, je dirais, mais surtout...
Qu'est-ce que vous entendez par soins énergétiques classiques?
Alors, j'entends, je suis allée voir en fait un énergéticien, donc en fait on s'allonge sur une table, et en fait c'est lui qui travaille, et nous, on est plus un peu dans le ressenti, mais c'est vrai que c'était... on se laisse un peu porter... mais j'avais l'impression qu'il fallait une petite marche en plus pour moi encore. Et donc en fait, en discutant avec Amélie, qui fait aussi de l'éthiomédecine, j'ai fait une séance d'éthiomédecine. Et là, j'ai compris que j'avais franchi une étape. Parce que du coup, on peut toujours se poser la question dans l'énergétique de savoir comment ça marche. Est-ce que c'est de la magie, ou est-ce que vraiment physiquement il se passe quelque chose? Mais clairement, il y a du ressenti. Donc, une séance d'éthiomédecine, on arrive, on s'assoit on s'allonge sur une table. Et en fait, il se passe des choses dans le corps. On est guidé par Amélie, qui ressent également des choses, qui nous guide en nous posant quelques questions. Et moi, par exemple, je me rappelle ma première séance, j'avais la tête qui tournait. Elle me posait des questions et moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais non, tout va bien avec cette personne. Pourquoi elle me parle de mon papa? Je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, d'un seul coup, ça a tourné. Il y a de l'émotion qui est montée. J'ai pas compris ce que je libérais. Et en fait, j'ai libéré des choses. J'ai repensé à des événements. J'aurais jamais pensé que c'est des choses qui auraient pu à ce point-là me marquer. Et en fait, voilà, il se passe des choses. On est vraiment dans le ressenti corporel, mais c'est quand même physique. Il y a de l'émotion, il y a de la chaleur, il y a des tourbillons. Et à la fin, hop, grande sensation de nettoyage et Amy dit la séance est finie et on repart d'accord, ok. Et je me suis dit waouh, c'est fou, c'est comme ça que j'ai un peu pris conscience de tout ce qui est mémoire cellulaire, blocage émotionnel, blocage énergétique, etc. J'avais vraiment pas de connaissances ni je connaissais pas ce monde là en fait avant, et je me suis dit mais en fait tout ce que j'ai mis en place depuis un an ça fonctionne pas encore, faut que j'aille plus loin, faut que j'aille chercher et creuser plus loin. J'ai forcément des choses encore à creuser, nettoyer, voilà. Et effectivement, depuis, j'ai découvert d'autres méthodes encore qui m'aident au quotidien. Donc, j'ai continué le breathwork, j'ai fait plusieurs séances d'ethiomédecine. Lors des breathwork, notamment d'une retraite que j'ai pu faire au mois d'octobre. Donc là, on est en mode intensif. C'est plusieurs sessions par jour. Je pense que ça vient vraiment... gratter au fond, si on peut dire ça comme ça. Et là, j'ai eu des énormes prises de conscience. En fait, les blocages, je les ai identifiés, quoi. C'était pas seulement dans le ressenti et le nettoyage, c'était mettre le doigt sur des choses hyper importantes, sur les relations mère-fille. Je pense que c'est quelque chose qui est finalement très important quand on veut donner naissance à un bébé. Il y a des choses à comprendre, à nettoyer. Sur le transgénérationnel, alors moi, les séances de breathwork, c'est très intense pour moi à chaque fois. Je suis très connectée à ma lignée de femmes qui m'apparaissent en fait à chaque fois que je suis en intégration. Ça me donne énormément de clarté. C'est quelque chose qui est très présent pour moi. Et surtout, j'ai eu une activation de Kundalini pendant une des séances lors de cette retraite. Et ça, c'est très important pour la suite, parce que vraiment, c'est un peu pour moi la clé de ma guérison. C'est-à-dire que, en fait, c'est une énergie qui s'active, c'est l'énergie vitale qui s'active. Et donc maintenant, à chaque séance, c'est une énergie qui vient faire son travail pendant ces séances, qui vient guérir, qui vient nettoyer. Et alors déjà, ça se traduit par... de la sensation vraiment physique, parce que je sens mon corps en fait suit cette énergie pendant la séance, donc je vois bien là où ça vient travailler au niveau du corps. C'est surtout que ça a les jours qui suivent. Au début, les premières sessions, je comprenais pas trop pourquoi j'avais fait ça et qu'est-ce que ça venait chercher, quoi. Et en fait, ça se mesure dans les semaines qui suivent, les jours qui suivent. En fait, j'ai gagné énormément en confiance en moi, en clarté d'esprit, en prise de décision, des choses sur lesquelles j'avais beaucoup de mal en fait à avancer, parce que j'étais focus sur mon parcours PMA, que je savais plus comment avancer, je savais pas pourquoi ça marchait pas, et j'étais enfermée dans ma tristesse, dans mon échec, quoi faire. Et en fait, ça m'a énormément fait avancer, voir les choses différemment, prendre du recul sur mon parcours. Je vois plus du tout les échecs de la même façon aujourd'hui. Je vis tout mieux, quoi. C'est un peu, ce que j'explique à Amélie, c'est, pour moi, ce parcours PMA, pour l'instant, il a pas encore abouti à un résultat positif, parce que je fais aussi beaucoup de pauses, parce que j'en ressens le besoin et que c'est très important dans ce parcours, mais ça m'a apporté une renaissance, quoi. Ça m'a fait énormément évoluer à différents points. Pour ça, je leur remercie. J'ai beaucoup de gratitude pour ça, même si ça paraît bizarre, parce que y a quand même l'échec qui est quand même toujours là pour l'instant. Mais je me rends compte que si ça marche demain, je serai une bien meilleure maman que si je l'avais été il y a un an et demi, parce que j'ai découvert qui j'étais et comment mieux vivre sa vie. Et je pense que j'aurais beaucoup de choses à transmettre à cet enfant, alors qu'il y a un an, c'était un peu... j'aime pas dire ça, mais un caprice, quoi. C'est-à-dire une solution à un problème, et voilà.
Merci beaucoup, Virginie. Je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté. On va rejoindre justement Amélie Clerc-Vorès. Bonjour Amélie.
Bonjour Mathilde.
Donc Amélie, vous êtes thérapeute ayurvédique, praticienne en kinésiologie, éthiomédecine et breathwork. Vous accompagnez des couples et des femmes dans leur parcours en fertilité ou en recherche de mieux-être à Paris, mais aussi à distance, en visio. Vous organisez des retraites, donnez des formations, des conférences, et vous intervenez aussi en entreprise. Vous êtes la créatrice de la méthode Innaissance et du Fertility Breath. et autrice du livre « Mon projet bébé, les secrets de l'Ayurveda pour booster sa fertilité et préparer sa grossesse » aux éditions Jouvence. J'accompagne de nombreuses femmes, mais aussi des hommes et des couples dans leur projet d'enfant, parfois dès la période préconceptionnelle. Le souhait est alors de vivre au mieux cette aventure qu'ils traversent ou non des difficultés, de mettre toutes les chances de leur côté, de se préparer à devenir parents pour accueillir dans les meilleures conditions possibles leur enfant. Le travail que je leur propose est principalement centré sur les dimensions psychiques et émotionnelles afin d'être acteurs de leur projet d'enfant. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Qu'est-ce que c'est qu'être acteur de son projet d'enfant ? Que peut-on mettre en place pour mieux vivre ce voyage, comme vient de nous en témoigner Virginie ? Comment agir sur son corps et ses émotions pour favoriser sa fertilité ? Autant de questions que nous allons aborder avec vous, Amélie Clark-Vorez. Tout d'abord, Amélie, qu'est-ce que c'est qu'être acteur de son projet d'enfant ?
C'est une vaste question et je pense que c'est une des questions fondamentales, dans le sens où, pour moi, il est clé que dans les couples ou les femmes, dans ce désir d'enfant, le désir est là. Par contre, il peut y avoir un désir où on pose un peu, on est presque dans une consommation. C'est-à-dire que je veux avoir un enfant et j'attends qu'il arrive. Et si ça marche pas, je vais voir la médecine qui doit m'apporter des solutions. Donc pour moi, être acteur de son projet d'enfant, c'est vraiment reprendre sa propre responsabilité en disant « Ok, c'est mon désir, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui est dans mon pouvoir ? Sur quoi je peux agir dans mon quotidien ? Que ce soit au niveau de ma gestion émotionnelle, ma gestion du stress, ma gestion de mon alimentation, de mon hygiène de vie. Qu'est-ce qui est dans mes mains sur lequel je peux agir ? Et après, comment aussi je peux me faire aider ? Par la médecine, par des thérapeutes, etc. Mais c'est vraiment une équipe qui se crée et la personne fondamentale qui est actrice doit en premier, quelque part, prendre cette responsabilité de dire « je choisis pour moi et je suis pas juste en « j'attends ».
Est-ce que du coup, voilà, cette prise de responsabilité, voilà, d'être acteur, à quel moment, alors Virginie nous disait, voilà, c'est une fois que les difficultés sont apparues, voilà, qu'il y a eu la question qui s'est posée pour vous, Virginie, à quel moment vous recommanderiez finalement, voilà, d'être dans ce chemin, en tout cas, de pouvoir s'en saisir de cette manière-là.
Alors, le moment idéal, c'est presque de commencer à préparer son corps, de préparer son mental, le fait de devenir mère avant même d'avoir le désir d'enfant. Toutes les femmes qui sont vraiment dans de la prévention, de je prépare les choses, je prépare le terrain, comme finalement on fait avec souvent l'appartement. C'est-à-dire que souvent les couples vont déménager, vont vouloir avoir la pièce supplémentaire pour accueillir le bébé avant même de mettre le projet en route. On le fait au niveau matériel, mais quelque part, le faire au niveau émotionnel et physique, hygiène de vie, c'est tout aussi important. Donc ça, c'est quand même le moment idéal de cette préparation, parce que parfois, on se rend compte que ça peut prendre un certain temps, arrêter la pilule, se détoxifier, des perturbateurs endocriniens, des hormones, retrouver un cycle régulier. C'est quelque chose qui peut, chez certaines, prendre un peu plus de temps que d'autres. Donc voilà, en amont, ça sera toujours mieux. Après, il est jamais trop tard. C'est ça qui est aussi important, c'est que la plupart des femmes qui viennent me voir, c'est souvent après avoir essayé naturellement au moins une année, hein, parce que la moyenne pour aujourd'hui pour tomber enceinte, c'est entre 8 et 10, 12 mois. Et c'est important à nommer, parce que parfois, au bout de 6 mois, la plupart des femmes, c'est pas normal, j'ai des problèmes. Non, aujourd'hui, on sait que la moyenne pour tomber enceinte naturellement, sans aide de la médecine, c'est entre 8 et 10, 12 mois. Donc souvent, il y a eu cette attente. Il y a eu parfois un démarrage avec la médecine pour aller faire des examens, etc. Et c'est quand vraiment on est face aux difficultés qu'on va voir des thérapeutes. Et c'est OK aussi. Donc, on est là finalement pour aider chacune et chacun dans ce projet au mieux et en fonction du timing.
Du coup, quelles vont être toutes ces, en tout cas, peut-être pas toutes, mais certaines de ces approches, alors, qu'on peut entendre médecine douce, Virginie nous en a un peu parlé, vous avez parlé de l'éthiomédecine, voilà, vous êtes thérapeute aussi ayurvédique, voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, voilà, ces différentes approches pour justement pouvoir préparer, ou en tout cas, à un moment du parcours, redevenir acteur de ce qui se passe et actrice?
Alors, pour moi, et pour les tous les médecins ou thérapeutes avec qui je travaille, on est vraiment, pour nous tous, il est très important de créer une équipe autour de soi. Et dans l'équipe, une des médecines douces, enfin complémentaires, je préfère que douce d'ailleurs, qui est très utile et qui est une de celles qui est les plus reconnues aujourd'hui en termes d'études médicales, c'est l'acupuncture. D'accord. Donc on sait qu'aujourd'hui, un acupuncteur spécialisé dans un parcours fertilité, un parcours PMA, va extrêmement aider. Donc ça, c'est quelque chose que je vais conseiller à tout le monde. On peut faire également du fertility yoga qui va aider aussi. Le travail sur le corps physique par de l'ostéopathie va être quelque chose d'important également. Et après, là, c'est les approches que je vais pouvoir, moi, accompagner. C'est le travail sur l'hygiène de vie, l'alimentation, qu'on peut faire avec l'ayurveda, qu'on peut faire avec la naturopathie. Enfin, voilà, il y a plus différents axes d'approche, mais vraiment, c'est mettre en place une alimentation pro-fertilité. Et après, il y a toute la partie émotionnelle qui est extrêmement importante, extrêmement clé. Et parfois, c'est ça qui va dénouer les choses. Parce qu'on sait aujourd'hui que un tiers des infertilités sont inexpliquées. Et c'est quelque chose qui est notamment très challengeant et confrontant pour les femmes ou les couples, de dire, mais en fait, tout va bien sur le papier. Au niveau médical, on ne comprend pas ce qui se passe, mais ça ne marche pas. Et donc finalement, la voie énergétique, la voie émotionnelle va permettre de travailler, de libérer des choses dans le corps. Va permettre aussi de commencer un chemin vers soi et de donner du sens à ce parcours vers le projet bébé, même si bébé n'est pas encore là. Donc sur cette partie-là, moi je travaille en individuel, en éthiomédecine, où là on va vraiment aller chercher en mémoire cellulaire des choses dont on n'a pas forcément conscience. La puissance de l'éthiomédecine, pour moi, dans toutes ces approches énergétiques, elles sont toutes bonnes, il faut juste trouver celle qui convient et le thérapeute qui convient. Donc il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre. Moi, l'éthiomédecine me parle énormément parce que j'ai un passé très scientifique et très rationnel, et qui fait que parfois on se dit, ok, mais en fait j'ai fait ça, mais est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? L'éthiomédecine, en fait, on ressent. Donc tout l'enjeu de l'éthiomédecine, ça va être, le corps va donner des informations au thérapeute et on va pouvoir verbaliser des choses, et c'est la synchronicité en fait entre la prise de conscience mentale que le corps va donner et le ressenti physique ou émotionnel qui va créer cette prise de conscience cellulaire et qui va libérer la souffrance, le trauma, le conditionnement, la croyance dans la cellule. De cette façon-là, en fait, on va pouvoir dire, je sais pas, quelque chose à quelqu'un en disant, ben en fait, voilà, in utero, il s'est passé ça. On n'a pas, personne n'a de mémoire de ce qui s'est passé in utero, mais si la personne sur la table ressent une énorme contraction au niveau de l'utérus ou ressent une vague d'énergie, il se passe quelque chose physiquement dans son corps, elle sait que c'est vrai, qu'il y a quelque chose. De même sur le transgénérationnel, même si on n'a pas, et souvent sur la fertilité, le transgénérationnel est quelque chose de très important. Voilà, si moi j'ai l'information qu'il y a quelque chose au niveau de la grand-mère et que on n'a pas l'histoire, mais qu'il y a un ressenti physique ou émotionnel, une vague de tristesse, il y a quelque chose qui se passe dans le corps, à ce moment-là, la personne sait que oui, il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Et donc, on a quelque part la preuve que oui, ça bouge. Et c'est en ça que je trouve que cette méthode est extrêmement puissante, parce que on va mettre une conscience sur des choses qui sont bloquées, soit dans l'inconscient, soit des choses qu'on ne peut pas avoir en mémoire, mais cette mémoire cellulaire, on va vraiment la toucher du doigt par rapport à ça. Et j'accompagne également en breathwork. Donc, dans tout ce parcours, moi, j'ai vraiment dans cette... vous avez commencé par ça, de dire la prise de responsabilité, en fait, du parcours. Moi, j'ai vraiment à cœur de redonner la responsabilité, mais aussi ce pouvoir d'action à chaque femme, à chaque couple, sur leur fertilité, sur leur corps. Et le breathwork, pour moi, c'est... Donc déjà, le breathwork, c'est la respiration connectée, continue, consciente. Et on va redevenir pleinement acteur. C'est-à-dire que moi, je vais guider tous les lundis, je vais accompagner les gens, mais derrière, on peut respirer seul. On peut se dire que finalement, on apprend une technique qu'on peut faire seul pour se libérer, pour atteindre cet état de... pour baisser son stress, cet état de paix intérieure. On sent qu'il y a de la colère et de la frustration parce que le parcours, parfois, ben, il est très challengeant émotionnellement. Et que finalement, on se dit, ok, là, c'est trop. Ben, je vais m'allonger.
je vais respirer et je vais me libérer de cette émotion. Et je vais revenir vraiment, mais pleinement acteur, presque au quotidien. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est quelque chose de très important pour moi dans ma façon d'accompagner les gens. Je redonne la capacité d'auto-guérison à chacun. Et au-delà de cette responsabilité, parce que derrière le être acteur, sentir responsable de son parcours, c'est important, mais attention, pour moi derrière le mot responsabilité, parfois il y a des femmes qui, parce qu'elles se sentent responsables, si ça ne marche pas, elles vont se sentir responsables et donc coupables. Et cette notion de culpabilité, elle n'a pas lieu d'être dans un parcours PMA, dans un parcours vers un projet d'enfant qui est PMA ou pas d'ailleurs. L'objectif, c'est de faire de son mieux, c'est de se connecter à soi, c'est d'avancer. Et parfois, faire mieux, un peu mieux, c'est mieux que faire parfaitement, parce que ça va créer tellement de tension, tellement de culpabilité si on fait le moindre écart, notamment au niveau alimentaire, que ça va être plus néfaste que de faire un peu mieux, chacun à son propre rythme, chacun sur son propre chemin, dans vraiment une philosophie des petits pas, de dire « Ok, j'avance et je fais de mon mieux à chaque étape de ma vie, à chaque jour, je fais un petit pas de plus, sans culpabilité. »
Oui, oui, cette culpabilité, moi je l'entends beaucoup chez les femmes que j'accompagne, mais aussi la question, en tout cas la culpabilité, elle m'évoque la question de l'injonction. C'est-à-dire qu'en effet, aujourd'hui, l'acupuncture, voilà, c'est médecine complémentaire, j'aime bien, je préfère aussi ce mot comme vous, Amélie, où les femmes vont se dire, bon, il faut que je le fasse, alors voilà, ma psy m'en a parlé, ou tel thérapeute, parfois tel médecin, tel gynéco, voilà, de plus en plus, je trouve, quand même, commence un petit peu à parler de tout ça, mais c'est un truc en plus qu'il faut faire pour que ça marche. Et donc là, j'entends aussi toutes les injonctions et toute l'inquiétude qu'il peut y avoir, ou parfois, moi, j'ai des femmes qui me disent « Ah, mais j'ai pas eu le temps d'aller chez l'ostéo avant le transfert, par exemple, ou de faire ma séance d'acupuncture, bah du coup, ça va pas marcher. »
C'est un point hyper clé. C'est-à-dire que tout le parcours, surtout quand on est vraiment en PMA et qu'il y a des transferts, il y a des stimulations, etc., vous savez que les femmes sont timées dans le mois stimulé, avec des prises de son, avec des échographies, avec des piqûres pour faire grossir maturer les ovocytes, les follicules. Mais on est presque à l'heure près. C'est-à-dire que on est dans une organisation du planning qui est ultra contrôlée, ultra contraignante, parce qu'en plus on travaille dans ces moments-là, et se dire en plus, il faut que je cale l'ostéo, il faut que je cale le breathwork, il faut que je cale l'acupuncture. Si on arrive à ça, on est contre-productif. C'est-à-dire qu'on doit, toutes les médecines complémentaires, être une aide à du bien-être. En tout cas, peut-être pas sur le moment où on fait les choses, parce que parfois, il y a la contrainte de « oui, il faut y aller », mais si vous ressortez que vous n'êtes pas mieux, ne le faites pas. Parfois, dans certains...
Il ne faut pas faire pour faire.
Exactement. En fait, vraiment déconner dans « il faut, je dois », c'est presque on nage à contre-courant de la vie. On est dans cette « je force les choses » et c'est contraire aussi à ce lâcher prise et ce besoin d'accueil de l'enfant qui arrive finalement quand il a envie aussi. D'accord ? Il n'y a pas que... Moi, dans mes croyances, hein, je pense qu'il y a trois acteurs, en fait, pour qu'une femme tombe enceinte. Il y a le père ou le donneur, il y a la mère et il y a l'enfant. Et que quand la trilogie, cet équilibre n'est pas encore prêt, ça ne se fait pas. Et c'est vrai que, on en parlait avec Virginie avant, ça peut être extrêmement frustrant de se dire « mais en fait, je comprends pas, il y a des femmes qui font le quart de ce que je fais, elles font n'importe quoi dans leur hygiène de vie, elles tombent enceintes alors qu'elles ont 40 ans. Et c'est presque c'est injuste. » Et moi, je fais tout depuis X années et je suis presque parfaite sur ça et ça arrive toujours pas. Et après, derrière, on voit certaines où finalement, elles font tout ce travail sur elles. Tout ce travail de se mettre en vie avant de donner la vie. Et l'enfant arrive et Virginie, elle en est là, et je trouve que son témoignage est extrêmement beau pour ça, c'est que finalement l'objectif premier de l'enfant ne devient plus l'objectif prioritaire. L'objectif prioritaire, c'est qui on est dans ce parcours, qui on est en train de devenir, et finalement, cette reconnexion à soi, à son essence, à son objectif de vie. Souvent, on peut même voir des reconversions. C'est le plus beau des cadeaux. Et quand on en arrive là, l'enfant finit par arriver au bon moment et c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est plus le gâteau.
Du coup, tout d'abord, dans la dimension corporelle, Virginie nous parlait voilà, de tous ces changements au niveau de l'hygiène de vie, de l'alimentation. Voilà, quelle piste par rapport à ça pour redevenir acteur, être acteur de son projet d'enfant, quels sont les fils à tirer?
Alors les fils à tirer, il y en a de nombreux. Je vais essayer de donner les principaux pour que les auditeurs aient des clés. La première chose à faire, c'est détoxifier le corps. D'accord, notamment qu'il y a eu plusieurs stimulations des hormones ou qu'il y a eu des années de pilules. La première chose, c'est nettoyer, détoxifier. Vous travaillez sur les perturbateurs endocriniens aussi.
Et comment on détoxifie concrètement?
Alors, la détoxification, on peut la faire par des plantes, on peut la faire par des détox, on va dire, plus classiques, par une alimentation plus saine aussi, où en fait, on arrête d'ingérer, par exemple, je pense aux perturbateurs endocriniens, qu'on va aller sur une alimentation, enfin, sur une hygiène de vie globale où on élimine de son quotidien, de sa maison, de sa cuisine, de ses plats, de ses contenants, de ses produits de beauté. On élimine les perturbateurs endocriniens, on va pouvoir nettoyer et on n'en remet pas. Donc ça, c'est quand même déjà quelque chose. Après, le breathwork va énormément détoxifier aussi, parce que on sait que 70 à 80% des toxines partent par le CO2 qu'on élimine. Et donc, dans les séances de breathwork, dans cette suroxygénation un peu qu'on fait au début, cette période d'activation, on va aller chercher de la détox. L'axe de la détoxification est important pour nettoyer. Après, ça va être important de mettre en place une alimentation qui va être pro-fertilité. Donc, on peut travailler sur tout ce qui va être anti-inflammatoire, d'accord? En Ayurveda, on est vraiment beaucoup sur les éléments. Donc, la fertilité se fait en milieu aqueux. Forcément, tout le feu va évaporer l'eau et donc va enlever de la capacité.
Voilà. Donc, le feu, c'est l'inflammation.
Exactement. L'inflammation, c'est un excès de feu. D'accord, le feu, on en a tous à l'intérieur de nous. Le feu digestif, ça nous permet justement de transformer les aliments en nutriments. Donc, c'est important d'en avoir. Par contre, si on a trop de feu, donc c'est un excès de feu, donc c'est de l'inflammation, ça va être contraire et ça va être un frein à la fertilité. Dans les aliments les plus inflammatoires dont on connaît, bien évidemment, il y a le sucre, qui est l'aliment le plus inflammatoire au global. Les produits laitiers sont également inflammatoires. La viande rouge peut être inflammatoire. Donc voilà, donc travailler sur ça. Plus ou moins profondément en fonction de la pathologie aussi de la personne. Sur ça, il y a vraiment un axe à travailler. Ça va être aussi apporter les bons nutriments au corps pour, et c'est ça vraiment qu'on fait en Ayurveda, c'est redonner cette capacité d'auto-guérison au corps. C'est est-ce que quelque part, j'apporte tous les nutriments nécessaires à mon corps pour lui donner cette capacité à produire les bons follicules de la meilleure qualité possible? Notamment encore plus quand on est en stimulation où on va être shooté par les hormones, mais si on n'a pas l'énergie, le terrain nécessaire dessous et on n'apporte pas les nutriments, on va faire des follicules de mauvaise qualité, presque vides, parce que le corps va être boosté d'un côté mais il n'a pas la matière, il n'a pas l'énergie, il n'a pas les nutriments pour ça. Donc dans cet axe-là, je pense notamment à l'hydratation. Le corps est fait à 70% d'eau, donc si on est en déshydratation, voilà, c'est pareil, le thé, le café déshydrate, n'hydrate pas. Donc parfois, on a des femmes qui pensent boire du thé toute la journée, ben en fait, elles boivent beaucoup, oui, mais elles boivent des choses qui déshydratent, qui ne vont pas hydrater. Donc voilà, avoir un bon niveau d'hydratation, c'est clé. Comme avoir un bon niveau de protéines, animales ou végétales, bien évidemment, les protéines vont apporter des acides aminés essentiels au corps qui vont apporter l'énergie aux mitochondries des cellules. Donc quelque part, la mitochondrie, c'est un peu notre centrale nucléaire au sein de chacune de nos cellules. Quelque part, un corps où on va manger, et c'est souvent un des écueils de « je veux aller vers une alimentation moins inflammatoire, donc je veux manger moins de viande, moins de protéines animales », et c'est très bien. Mais attention à bien les remplacer par des protéines végétales, parce que souvent, on les remplace par des glucides. Et donc, on va se déséquilibrer, on va être trop faible en protéines et trop fort en sucre. En sucre lent, mais c'est quand même du sucre. Souvent, les femmes mangent de façon saine. Et dès qu'on est sur de la fertilité, on fait attention à son alimentation. Et manger de façon saine, ça va être, entre guillemets, quelque chose où elles arrivent, quand elles arrivent au cabinet, elles mangent sain à 90%. En revanche, l'équilibre, souvent, n'est pas là. Et notamment sur les protéines. C'est quelque chose qui est clé. De la même façon, dans un autre axe, c'est vraiment piloter le poids. piloter son poids et son hygiène de vie avec le sport, souvent ça va ensemble. Un excès de poids, on sait qu'aujourd'hui c'est un frein à la fertilité. Un IMC trop bas, c'est également un frein à la fertilité. Donc ça, souvent, les femmes n'y pensent pas forcément. Des femmes qui sont dans... voilà, je fais attention à mon alimentation, j'ai un poids qui est bien, voire trop faible, je fais beaucoup de sport parce que c'est important. Mais en fait, le trop de sport, c'est trop aussi. Et ça va être aussi un frein à la fertilité. Il faut aussi de la douceur et de l'équilibre. Donc souvent, c'est vraiment ça qu'on va mettre en place chez les femmes, c'est vraiment retrouver un équilibre global entre ce qui est bon et ce qui est trop. Dans les bonnes choses comme ce qu'on peut pas, voilà, on peut dire, voilà, aller courir, se mettre en mouvement, oui, c'est important et c'est indispensable, oui. Aller courir tous les jours, si on est dans un projet bébé, c'est extrêmement néfaste. Dans l'inconscient collectif, c'est pas forcément la chose, elle va se dire, non, mais en fait, je fais tout bien, je fais du sport tous les jours. Depuis que je veux mon enfant, je fais encore plus de sport. Mais non, attention.
Alors là, c'est très axé sur les femmes, mais est-ce que les hommes aussi peuvent mettre des choses en place et est-ce que c'est recommandé? Voilà.
Alors oui, bien évidemment. Et c'est important que l'homme rentre dans le processus de PMA, soit acteur aussi de sa propre partie, enfin de son propre rôle à jouer.
Pas que dans le processus de PMA,
oui,
d'ailleurs.
Tout à fait. Dans la parentalité au global, on est d'accord. Mais en tout cas, avant de devenir parent. C'est intéressant ce que vous dites, c'est que souvent les hommes, quand l'enfant est là, ils se sentent avoir leur rôle à jouer parce qu'ils sont pères. Ça y est, il y a le statut qui est là. Dans le projet bébé, dans ce processus, ils vont se dire, en fait, c'est chez la femme que ça se passe. Donc, je suis un peu en second plan où c'est vers elle. Alors, je peux l'accompagner, je peux l'aider, mais moi, j'ai pas forcément autant de choses à faire qu'elle. Alors que non. Donc sur ça, c'est important, sur l'hydratation, attention au café pour les hommes, attention à l'alcool, attention à, alors pour les femmes aussi, mais chez les hommes c'est souvent parfois plus complexe. Il n'y a pas que ça dans l'alcool, mais il y a aussi la partie sucre. Attention au café, où souvent ils boivent beaucoup de café et ils ont du mal à diminuer le nombre de café. Attention même aux ondes, avec les téléphones portables qui peuvent être dans la poche, qui détruisent les spermatozoïdes, on le sait, c'est prouvé aujourd'hui. C'est vraiment l'alimentation, une alimentation anti-inflammatoire va être tout aussi importante chez un homme que chez une femme. Il y a des choses à faire au niveau alimentaire, au niveau hygiène de vie. Sur le processus, c'est aussi prendre part et partager les choses avec la femme pour pas qu'elle se sente seule et que ce soit un projet de couple. Souvent, le projet de parentalité, dans les processus de projets d'enfants qui sont un peu complexes, ça peut créer des problématiques de communication, des problématiques de déphasage dans le couple, parce qu'on n'est pas forcément au même rythme, on ne veut pas forcément les choses en même temps, on n'est pas forcément prêt à faire les efforts autant en même temps. En tout cas, au même niveau, enfin,
oui, ça,
à la même temporalité.
Ça crée énormément de tensions au sein des couples.
Exactement.
Les femmes, bien souvent, ont envie que leur partenaire se responsabilise, soit acteur, mette plein de choses en place. Et puis, quand monsieur ne suit pas, ça peut être un peu compliqué.
Et ça fait partie aussi de ces bénéfices secondaires au parcours vers la fertilité qui peut être long. Ça peut aussi être se dire, finalement, on est en train de travailler notre posture de parent. Avant que bébé soit là. On est en train de faire les ajustements. On est en train de voir quand on n'est pas d'accord, quand on n'est pas aligné, comment ça se passe, comment on règle ça au sein du couple et comment on trouve une voie commune entre les postures de chacun. Et ça, c'est clé parce que tout parent va devoir le faire. Que l'enfant soit là ou pas, que ce soit avant ou après. Et parfois, le faire quand l'enfant n'est pas là, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est aussi des moments où on est dans le dur, on est dans de la confrontation, on est dans du challenge personnel où ça va nous déclencher des émotions, ça va nous déclencher parfois des comportements qui sont issus de notre conditionnement, etc., que l'autre ne connaît pas, parce que jusque-là, on a été dans la facilité de facilité plus ou moins, mais dans quelque chose de plus doux, de construction de couple, de légèreté. Et souvent, c'est la première épreuve d'un couple. Quand l'enfant n'arrive pas aussi facilement que ce qu'on voudrait, et que dans cette première épreuve, c'est comment on s'en sort, comment on crée les bases solides pour que le couple soit pérenne. Et souvent, les couples qui passent par un parcours de fertilité complexe, ce sont des parents qui ont beaucoup moins de difficultés après. Et malheureusement, c'est rare, mais j'en vois quand même, il y a des couples qui ne survivent pas au processus.
Je compléterai là ce que vous dites, Amélie. Moi, ce que je peux observer, c'est que ces couples, quand ils arrivent à faire ce travail, justement, d'élaboration, d'intégration, de digestion, en effet, voilà, ça leur permet de travailler plein de choses pour l'après et d'être beaucoup plus confortables dans l'après. Mais voilà, on sait aussi, hein, par exemple, le parcours de PMA peut être un facteur à risque de dépression du postpartum. Donc, si les choses ne sont pas travaillées, restent ancrées ou figées dans de la souffrance, dans de la douleur, là, pour le coup, ça va plutôt avoir un effet négatif ou néfaste potentiellement pour la suite.
C'est une vraie épreuve. Clairement, il ne faut pas la minimiser. C'est une vraie épreuve pour chacun, individuellement. Et en effet, ça peut créer aussi des tensions de... Ça peut créer aussi beaucoup d'injustice chez la femme qui doit subir tous les traitements, qui a tous les examens, qui subit beaucoup plus en fait pendant le parcours et crée de la colère au sein du couple et du ressentiment vis-à-vis du conjoint. Et c'est pareil, c'est des choses qui se travaillent en psychanalyse clairement. Et vous devez
psychothérapie
et ça vous devez le voir régulièrement, qui se travaille aussi en émotionnel parce que parfois on a cette injustice, on a des injonctions aussi qu'on a héritées de ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, ou c'est pas voilà, ou ça va quelque part nous déclencher des choses dont on a hérité et dont on n'a pas forcément conscience.
Du coup, justement, Amélie, alors que ce soit les tensions dans le couple, l'attente aussi, voilà, émotionnellement, peut être très éprouvante. Qu'est-ce que vous proposez, justement, pour travailler sur cette régulation émotionnelle, pour apaiser les choses, voilà, d'une lignée transgénérationnelle? Voilà, quels seraient vos fils pour aider nos auditeurs?
Alors, mes fils à moi, en quoi je peux aider mes patients, c'est vraiment sur ce travail de mémoire cellulaire en individuel.
Donc là, c'est l'éthiopathie.
C'est l'éthiomédecine. Éthiomédecine ou kinésiologie, donc c'est les deux. Notamment, c'est pareil, quand il y a des fausses couches ou s'il y a eu des IVG avant, des choses comme ça, les mémoires, en fait, des cellules qui ont été là et qui sont arrêtées de vivre, c'est des choses à libérer. Donc, on va aller vraiment aider à alléger le parcours, les émotions, la souffrance, et parfois aussi à mettre de la conscience sur des potentiels blocages. Et ça, c'est quelque chose qui peut énormément aider les gens, parce que quand ça marche pas, c'est peut-être une des choses les plus difficiles à vivre, c'est le fait de ne pas comprendre. Notre mental a besoin d'avoir des explications. Et parfois, après plein d'examens, je peux recevoir la femme, elle me dit « Ah, ça y est, on a trouvé ça. Il y a ça qui va pas. » Et quelque part, d'avoir une explication médicale, c'est un soulagement.
Ça donne du sens.
Ça donne du sens. Et c'est là où le travail en mémoire cellulaire donne également du sens, parce que on va mettre de la conscience sur sa relation. Parfois, sur des choses parce que on l'a vécu enfant, avec un développement cérébral d'un enfant, et que avec notre développement cérébral d'adulte, on dit oui, il s'est passé ça, mais c'est pas très grave en fait, c'est normal. Enfin, j'étais enfant, sauf que ça a pu extrêmement nous marquer en tant qu'enfant. Et c'est ça en fait qu'on va aller chercher en mémoire cellulaire, c'est mettre de la conscience sur des choses qui peuvent être beaucoup plus impactantes et ont pu laisser des traces. Tout ce qui est en fait toutes ces empreintes émotionnelles qu'on a dans le corps, qui restent figées dans le corps et qui peuvent nous empêcher d'être pleinement nous-mêmes. Et donc là-dessus, on va rentrer vraiment dans un parcours de travail sur soi, alors plus ou moins long, parce que c'est quand même des thérapies brèves, hein, et où on va mettre de la conscience, on va permettre au couple, ou à la femme, ou à l'homme, parce que j'ai vraiment les deux, de prendre conscience, et de dire « Ah oui, là j'ai quelque chose à faire ». Et on va aussi leur donner le fait de se dire « Je suis acteur et je suis en train de faire des choses qui me libèrent, qui libéreront mon enfant aussi, parce que quand c'est mémoire, on les libère pour soi et pour sa lignée, hein, descendante. Donc on le fait aussi pour l'enfant qui va arriver. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement aidant. Le brise-soir.
Oui, excusez-moi, je vous interromps, Amélie, mais ça m'évoque vraiment. Moi, je suis thérapeute ICV, donc intégration du cycle de vie, et justement, on va travailler sur toutes ces empreintes émotionnelles, toute cette mémoire implicite qui s'est emmagasinée à tous les âges de la vie, et comment ça peut être réactivé à certains moments de la vie sans forcément qu'on comprenne, et d'autant plus si ce sont des choses qui sont passées très précocement dans son histoire. Avant l'apparition du langage, on n'a pas forcément les mots pour raconter, mais où le corps, lui, va s'exprimer, va envoyer des messages qui souvent désarment en disant bah, « je comprends pas, mais pourquoi, pourquoi je ressens toujours ce truc-là à ce moment-là » Et donc là, on va vraiment pouvoir voilà, aller explorer justement ce qui a pu se passer et quelle est l'empreinte pour que ça se réactive plus aujourd'hui, par exemple.
Et libérer l'empreinte dans le corps.
Exactement.
C'est quelque chose qui est vraiment important. Le principe du breathwork, c'est que chaque fois qu'on est face à un stress, à quelque chose qui nous contrarie, on va bloquer sa respiration. Et en fait, de bloquer notre respiration, on fait tout ça inconsciemment. Et le fait de bloquer notre respiration, on va bloquer l'information dans le système nerveux sympathique. Et donc, en fait, ça va aller se loger dans le corps. Et petit à petit, en fait, toutes ces sensations inconfortables, on ne veut plus les ressentir. Donc, en fait, on va les refouler. Et notre mental est très bien fait pour ça. Et c'est aussi un instinct de survie, même de la race. Hein. Toutes les femmes qui, après, accouchent, on se rappelle tous que, enfin, toutes que, ben, que des beaux moments de l'accouchement et la souffrance, et les, ben, en fait, on l'oublie et c'est très bien. Mais donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette sélection naturelle du mental qui va juste garder ce qu'il veut ressentir et tout l'inconfort, il va aller le bloquer dans des endroits du corps. Et donc, que ce soit en éthiomédecine, on va aller chercher vraiment de façon individuelle, spécifique, de ressentir, d'aller chercher cette conscience de ce qui a été bloqué dans le corps, ou en breathwork, où là, on va pouvoir le faire plus de façon individuelle, seule, en toute sécurité, pour se dire, ok, en fait, je vais remettre de l'air, je vais remettre de la vie, du mouvement dans ces zones qui presque sont émotionnellement mortes, bloquée, en tout cas pas morte, mais bloquée, je vais lever ces empreintes émotionnelles. Et ça, c'est souvent quelque chose que, dans les retours que j'ai du breathwork, qui est assez fréquent, se dire, en fait, il s'est passé plein de choses, je me suis mise à pleurer, ou alors j'ai une colère qui est venue, qui est sortie, je sais pas d'où ça vient, mais je me sens beaucoup mieux après. Et vraiment, c'est ça qui est important, c'est que toutes les empreintes émotionnelles, ce que vous disiez sur tout ce qui a été créé avant, enfin, la plupart de nos empreintes émotionnelles sont entre 0 et 6 ans. Donc, entre 0 et 6 ans, la parole, alors, elle arrive à 2 ans, mais même si l'enfant de 3 à 4 ans, il n'a pas tout le vocabulaire, il n'a pas les mots, il n'a pas la conscience pour nommer ce qu'il vit. Et donc, en fait, tout ça, c'est enfoui et on est incapable, en fait, parfois, de mettre vraiment des mots dessus. Et donc, par le ressenti, on va pouvoir aller libérer et mettre de la conscience de ce qui sort, quelque part, on s'en fiche. L'important, c'est de le libérer, d'alléger le corps et de reconnecter cette énergie de vie à l'intérieur de nous, cette énergie de joie qui apparaît quand on respire.
Est-ce que du coup, Amélie, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est, un peu concrètement, de manière presque pratico-pratique, le breathwork?
Oui, avec plaisir. Alors, le breathwork, donc, c'est apparu en fait dans les années 60 aux États-Unis, suite à toute la vague un peu hippie, et c'est suite à l'interdiction du LSD, où il y a des personnes qui ont voulu atteindre des états de conscience modifiés sans prendre de substances. Ça a commencé comme ça, c'était aux États-Unis, donc notamment à LA, où il y avait toute la vague un peu issue de l'Ayurveda, enfin de l'Inde, avec tous les pranayamas, du yoga. Donc en fait, vraiment tout ce travail sur le souffle. Et en fait, on s'est rendu compte à ce moment-là que quand on respire de façon continue, donc sans faire de pause entre l'inspiration et l'expiration, d'une certaine façon, on pouvait, en modifiant notre pattern de respiration, modifier notre physiologie dans le corps. On peut mettre notre mental en pause, donc atteindre des états de conscience modifiés de façon facile, sécurisée, sans rien d'autre que juste notre respiration. Donc concrètement, les gens sont allongés, on va avoir une première phase où on va descendre dans le corps, tout, voilà, pour voilà, se déposer un peu dans le corps, se détendre, sortir un peu de cette agitation de la vie au quotidien. Et puis, on va avoir une première phase d'activation, où on va respirer bouche ouverte, sans faire de pause entre l'inspiration et l'expiration, de façon assez dynamique. Donc là, on est sur quelque chose de dynamique, on n'est pas dans de la méditation. Et donc, c'est là où on va activer les choses, c'est là où on va aller remettre de l'air, de l'oxygène, de la vie dans ces endroits un peu bloqués. Donc, il y a toute cette phase d'activation. Et après, il va y avoir une phase d'intégration où là, ça ressemble vraiment à de la méditation, où on va accueillir ce qui se passe. On peut avoir de la clarté, on peut ressentir de la paix intérieure souvent, on peut ressentir un calme, on peut avoir des visions pour certaines personnes, on peut recevoir des messages. Donc voilà. Le breathwork va travailler, et c'est ça qui est très très intéressant dans la fertilité, et c'est pour ça que j'ai créé le Fertility Breath, c'est vraiment, on va travailler à quatre niveaux. On va travailler au niveau du physique, donc en augmentant notre taux d'énergie, et on sait que on en a besoin de l'énergie, qu'on soit encore plus en parcours PMA, mais même avec la vie qu'on a, qu'on veut tomber enceinte, on a besoin d'avoir un bon niveau d'énergie. On va détoxifier le corps, ça j'en ai déjà parlé. On va augmenter l'hydratation du corps, parce qu'en augmentant l'oxygène dans le sang, ça va augmenter en fait la transmission de l'oxygène dans les cellules, et donc augmenter l'hydratation, qui est clé. C'est pareil, donc j'en ai parlé sur l'hygiène de vie tout à l'heure. Donc ça va augmenter notre qualité ovocytaire. On va vraiment aller jouer physiquement, physiologiquement sur le corps. On va travailler en fait de ce pattern de respiration sans faire de pause entre l'inspiration et l'expiration, à faire que le mental ne va plus avoir de place. Et c'est vrai que dans ces parcours vers la fertilité, on peut très vite être obsédé par ça, ne penser qu'à ça, et être vraiment avoir ce petit vélo dans la tête qui commence à marcher, qui arrête, qu'on n'arrive plus à arrêter.
Alimenté par l'injonction lâche prise, mais faut lâcher prise.
Exactement. Sans avoir les outils derrière. Donc en fait là juste de cette façon de respirer ne laisse plus de place au mental. Donc au début il rentre un peu en résistance et puis après il finit par lâcher. Il a plus le choix. Et donc, moi, je sais que j'étais quelqu'un de très contrôlant, et le breathwork a changé ma vie pour ça, parce que l'injonction lâche prise, je l'ai beaucoup eue, et je me l'ai donnée moi-même, et en fait, c'est en respirant que j'ai réussi vraiment à lâcher prise. Donc, on va travailler au niveau émotionnel. Donc là, on va baisser notre niveau de stress, notre angoisse. On va pouvoir libérer des émotions de tristesse, de colère, des choses qu'on s'autorise pas forcément, parce que dans l'éducation, dans la civilisation dans laquelle on est, on n'apprend pas, alors un peu plus avec nos enfants aujourd'hui, mais notre génération, on n'apprend pas à exprimer nos émotions, on apprend plutôt à les refouler. Une émotion n'est pas autorisée. Et on le voit aujourd'hui, en entreprise, par exemple, les émotions sont totalement interdites. Voilà, on peut pas, quelqu'un qui pleure ou quelqu'un qui se met en colère, c'est pas du tout accepté. Enfin, c'est pas du tout OK. Là, c'est vraiment un espace où on va se dire, OK, là, dans cet espace-là, je m'autorise à accueillir tout ce qui vient en termes d'émotions. Et c'est cette autorisation d'avoir un espace sécurisé pour cela, c'est quelque chose qui est très très libérateur pour les femmes et pour les hommes. Le breathwork fonctionne beaucoup chez les hommes parce qu'on n'a pas à parler. donc souvent c'est quelque chose qui justement leur convient beaucoup. Donc voilà, et après on va travailler ce que j'appelle entre guillemets le niveau spirituel, où on va être en état de plénitude, de paix intérieure, où on peut voir on peut avoir des visions de couleurs, on peut avoir même des visions un peu plus, on peut voir s'aligner, on peut voir des choses, on peut vraiment recevoir des informations dans la deuxième partie. Donc on travaille vraiment sur ces quatre niveaux, donc c'est quelque chose qui est extrêmement holistique, extrêmement complet, et qu'on peut faire vraiment régulièrement. Aujourd'hui, aux États-Unis, le breathwork, c'est dans cette hygiène émotionnelle, ils font tous une séance de breathwork, fertilité, pas fertilité, par semaine, comme nous presque, on va faire notre séance de yoga. Donc vraiment, moi je pense que dans 10, 20, 30 ans, je ne sais pas, ça va être pareil en Europe, où cette hygiène émotionnelle va être indispensable, et le breathwork c'est quand même une des techniques les plus rapides, efficaces pour ça. Écoutez-vous, c'est vous qui savez, surtout les femmes, et vous êtes responsable de votre corps. Autorisez-vous à faire des pauses, autorisez-vous à suivre votre intuition. Même si le corps médical vous dit « non, ça serait bien d'eux ». Mais non, c'est bon, on a fait les examens. Parfois, on a cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous fait dire « non, il y a un truc ». Non, ou là, j'en peux plus, j'ai besoin d'arrêter. Ok, oui, il y a un tech qui est prévu le mois prochain, mais en fait, non, je j'y arrive plus. Autorisez-vous. Vraiment, reprenez cette autorité sur votre corps, en fait. C'est vous qui êtes maître de votre corps, de votre vie, et ne vous laissez pas influencer par des thérapeutes, par le corps médical. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et moi, je sais que dans mon propre parcours PMA, à un moment donné, je sentais que c'était plus possible, et j'ai fait 6 mois de pause. Et ça peut paraître beaucoup, 6 mois de pause, et en fait, ça a été clé. Et vraiment, c'est vous qui savez.
Ouais, c'est la limite aussi que Virginie a posée. En tout cas, voilà, ça m'a touchée quand vous avez parlé de ça, Virginie, parce que les femmes que j'accompagne peuvent vraiment parfois être un peu prises au piège, presque, de toutes ces injonctions.
Et de vouloir bien faire.
Et de vouloir bien faire, évidemment, de vouloir mettre toutes les chances de leur côté avec cette idée que ça va être nuisible, presque. En tout cas, que ça va leur nuire et nuire au projet. Alors que finalement, quand elles arrivent à poser ces limites, à être beaucoup plus alignées avec ce qui est OK ou pas OK pour elles, les choses se vivent un peu différemment.
D'ailleurs, si je peux rajouter quelque chose là-dessus, c'est que, pour donner un peu d'espoir, depuis le mois de mars où j'ai un peu justement mis en place toutes ces choses, repris l'autorité, comme dirait Amélie, où on me pressait de faire un enfant rapidement parce que j'avais une insuffisance ovarienne précoce et qu'il fallait rapidement tomber enceinte, voilà. Moi, j'ai justement ressenti ces besoins de pause, j'ai ressenti ces besoins de prendre soin de moi, d'où tout ce que j'ai mis en place. Il se trouve qu'en refaisant des examens il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert que mon AMH, elle était remontée x4. Donc, on nous dit que ce n'est pas possible et que l'insuffisance ovarienne précoce, c'est le temps avant tout. La réponse est non. Voilà.
Et ça, c'est une très, très belle preuve, merci Virginie, sur le fait qu'en s'écoutant, en mettant des choses en place, on a aussi du pouvoir sur son corps. Et on a cette puissance en nous. Après, tout le chemin d'aller la reconnecter est un vrai chemin vers soi. Et c'est peut-être le plus beau cadeau du chemin vers la fertilité, ces parcours.
Je pense que le temps peut être un allié et il faut vraiment s'en servir aussi.
Merci beaucoup, Virginie. Dans tout ce que vous nous avez dit, l'une et l'autre, être acteur de son projet d'enfance, c'est avant tout se mettre en vie avant de donner la vie. Et d'ailleurs, souvent, je dis à mes patientes, il faut de la vie pour accueillir la vie. Quand c'est particulièrement difficile et ou douloureux, changer sa vision et son vécu de ce parcours, le transformer, permet de sortir d'une situation parfois de victime ou d'emprisonnement pour pouvoir aussi y gagner. C'est bien ce que vous nous avez témoigné, Virginie. C'est un temps, un chemin qui peut être précieux dans le devenir parent pour se sentir plus solide, plus armé une fois que l'enfant est là et traverser alors plus facilement les difficultés qui se présentent. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Virginie, est-ce que vous avez quelque chose à recommander, une lecture ou autre chose ?
Alors oui, j'ai plusieurs livres à recommander. Le premier, c'est le manuel pour une fertilité émancipée de Lorraine Saint-Dicic, qui moi m'a énormément aidée à comprendre. Donc en fait, elle explique de façon très vulgarisée le cycle, tous les dysfonctionnements qui peuvent en découler. Et vraiment, c'est pour moi, c'est la base. Une femme qui veut faire un bébé, elle doit connaître ces bases-là pour connaître son corps, pour comprendre comment il fonctionne. Parcours PMA ou pas parcours PMA, d'ailleurs, c'est très important. Et franchement, ce livre, il est super pour ça. Après, il y a le livre d'Amélie, Mon projet bébé, qui donne toutes les clés de l'hygiène de vie de base qu'il faut mettre en place pour un bébé. Quelqu'un qui n'a pas encore consulté un thérapeute, c'est déjà des très bonnes bases de choses à mettre en place. Après, un livre qui m'a beaucoup, moi, servi en énergétique, c'est Les clés de mon énergie de Natacha Calestrémé, dont je me suis servie pour du travail sur de la libération transgénérationnelle à titre personnel. C'est pareil, c'est hyper bien expliqué. Elle explique vraiment le poids de la mémoire transgénérationnelle dans nos vies et comment s'en libérer assez facilement. Et je fais ça régulièrement depuis plusieurs mois et vraiment, ça m'a beaucoup aidée. J'ai pris conscience d'énormément de choses. Et le dernier, c'est un livre témoignage qui est « Aller-retour pour un bébé » d'Audrey Page, qui est une maman solo, en fait, qui explique son parcours PMA et notamment qui parle du don d'ovocytes, qui est moi quelque chose dont on m'a rapidement parlé, puisque le don d'ovocytes, c'est un peu la solution facile dans mon cas d'insuffisance ovarienne précoce. Et en fait, ça m'a énormément dédramatisé la solution du don d'ovocytes. Elle explique parfaitement en quoi ça lui a permis d'être maman, comme quoi il y a trois génétiques qui se mettent en jeu quand on fait appel au don d'ovocytes et que finalement c'est notre enfant, on le porte et on le nourrit, on le fait grandir pendant des mois et ça m'a moi personnellement énormément aidé à dédramatiser. Au début je me disais non je pourrais jamais faire de don d'ovocytes, je veux que mon enfant il me ressemble, etc. Et ce livre m'a vraiment aidé. Je pense que pour les mamans qui se posent beaucoup de questions là-dessus, c'est vraiment intéressant.
Merci beaucoup Virginie. Amélie, qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander ?
De façon un peu plus médicale, mais fait avec beaucoup de conscience, d'histoire, de témoignages, c'est tous les livres de Martine Dupont-Gadet, qui est médecin acupuncteur spécialisé dans la fertilité. Et après, le podcast Serendipity, qui est spécialisé aussi sur la fertilité. C'est Mélanie Hénard qui maintenant a arrêté d'en tourner, mais il y a vraiment des pépites dans tous les épisodes qui sont toujours à disposition. Ça permet aussi d'écouter des témoignages de femmes qui sont en parcours de fertilité, se sentir moins seules. Il y a des témoignages de thérapeutes aussi, tous très bien choisis et voilà, c'est quelque chose qui peut être sympa à écouter en plus.
Un très grand merci, Virginie, d'être venue partager avec nous votre chemin, votre parcours de fertilité et comment vous êtes actrice dans tout ça. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Amélie Clerc-Vorez, pour tous vos éclairages et tous vos conseils. Je rappelle que vous êtes thérapeute ayurvédique, créatrice de la méthode Innaissance et que vous accompagnez à Paris et en visio.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant » aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture!